5 minutes pour comprendre, présenté par Robin Hulin.
Et aujourd'hui, on continue de s'intéresser, comme toutes les semaines, à différentes thématiques scientifiques en tout genre. C'est avec des chercheurs de l'Université du Mans. Et j'accueille pour ce nouveau numéro Christophe Chassenieu. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc physico-chimiste, spécialiste dans la matière molle, chercheur à l'Institut des molécules et matériaux du Mans. Vous vous intéressez donc, dans vos travaux de recherche, aux polymères. C'est une molécule que l'on retrouve dans de nombreuses substances, dans les produits cosmétiques notamment. Christophe Chassenieu, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, plus concrètement, qu'est-ce que sont les polymères ?
Alors, les polymères, ce sont en fait des molécules géantes, qu'on appelle des macromolécules, et qui consistent en fait en une unité de répétition, un monomère, qui est liée plusieurs fois de manière covalente à d'autres molécules monomères. Et donc, ainsi, on a une molécule qui se répète, et ça constitue une macromolécule.
Et il y a donc deux sortes de polymères, c'est ça ?
Alors, il y a plusieurs sortes de polymères, parce qu'il faut un petit peu voir ça, comme j'ai l'habitude de le dire, comme un espèce de jeu de Lego. Donc, lorsque vous avez des briques de Lego, vous pouvez les associer toutes les unes par rapport aux autres de différentes manières. Et bien, c'est exactement la même chose quand vous voulez fabriquer un polymère. Vous choisissez différentes briques, différents monomères, et vous pouvez les associer de différentes manières pour conduire à la fabrication d'un avion, d'une maison ou d'un héros de jeux vidéo, par exemple.
Et alors, quel est le rôle de ces matières-là dans le cosmétique, justement ?
Alors, au niveau de la cosmétique, souvent les polymères sont ajoutés soit parce qu'ils vont avoir une fonction particulière sur la peau, notamment, je pense à un polymère, un polysaccharide qui s'appelle l'acide hyaluronique et qui va avoir la propriété de maintenir une certaine élasticité de la peau. Ou alors, ça va être quelque chose qui va être ajouté à la crème de beauté pour que cette crème de beauté ait une texture agréable au moment où on va l'appliquer sur la peau. Et là, le polymère, il va plutôt avoir un rôle d'agent, de structure, de viscosifiant, de texturant au niveau de la crème de beauté, sans avoir forcément un rôle actif par rapport à la peau.
Donc, quels sont les produits de cosmétiques qui contiennent des polymères, autres que les crèmes, par exemple ?
Alors, par exemple, vous en trouvez également dans tout ce qui est shampoing, parce que là, le polymère va être quelque chose de très, très important pour pouvoir déposer certains actifs sur le shampoing, pour pouvoir aider à les peigner, pour pouvoir aider à les soigner, pour pouvoir rendre, par exemple, des cheveux bouclés, pouvoir les lisser, etc., etc. On va retrouver également les polymères dans les gels douches, et là, ils vont avoir aussi un rôle de texturant, c'est-à-dire qu'ils vont apporter une certaine viscosité au gel douche, de manière à ce que celui-ci s'écoule de manière assez agréable dans la main au moment où on va le verser de la bouteille du gel douche dans la main, mais ils vont également éviter que le gel douche soit trop rapidement dilué au contact de l'eau pour éviter d'avoir une impression d'avoir quelque part un gel douche qui s'est immédiatement dilué lorsqu'on a voulu l'appliquer sur la peau.
Alors concrètement, quelle est la différence donc entre les polymères dont vous parliez au début de l'interview, les polymères d'origine naturelle et ceux d'origine synthétique ?
Alors, un polymère d'origine naturelle, on le retrouve naturellement dans la nature. C'est donc un polymère qui est complètement biosourcé. Alors, on peut citer, par exemple, la cellulose qui est fabriquée par les arbres pour maintenir leur squelette d'arbre dans l'espace et résister au vent. On peut citer les alginates qui sont les équivalents de la cellulose pour les algues. Et puis, on a des polymères qui sont purement synthétiques, où cette fois-ci, on va chercher des monomères. La plupart du temps, ces monomères vont être pétrosourcés. Et donc, ces monomères pétrosourcés, une fois qu'on les polymérise, on va obtenir des polymères parfaitement synthétiques. Et là, ça va être peut-être plus, par exemple, le contenant de sa bouteille de shampoing, qui va être une matière qu'on appelle le plastique.
Vous expliquez que vos travaux de recherche ont des liens fondamentaux avec des problématiques sociétales. C'est-à-dire ?
Alors, moi, par exemple, je m'intéresse à des polymères particuliers que sont les protéines. Là, le monomère, ça va être des acides aminés. Et la disposition des acides aminés au sein de la macromolécule va avoir une influence très, très importante sur la fonction de la protéine. Alors, les protéines, vous en mangez tous les jours quand vous mangez de la viande, quand vous mangez des œufs, quand vous buvez du lait. Et donc, ce sont ces protéines qui nous permettent, nous, de fonctionner, puisqu'on va utiliser l'énergie de ces protéines et les acides aminés de ces protéines à notre unique intérêt. Et d'un point de vue pratique, eh bien, ces protéines, souvent, lorsque je veux leur donner des fonctionnalités particulières dans le domaine de l'agroalimentaire, je vais devoir comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent et je vais essayer de modifier, de moduler cette fonctionnalité en leur appliquant différents types de traitements. Alors, par exemple, un traitement qu'on connaît très très bien, quand on prend un œuf et qu'on le chauffe, eh bien, on dénature la protéine et ça fait un œuf cuit. Eh bien, moi, j'essaye de faire ça avec des protéines laitières ou des protéines végétales et j'essaye de voir en quoi la dénaturation par la chaleur de ces protéines peut conduire à des produits avec des fonctionnalités très très intéressantes dans le domaine de l'agroalimentaire. Par exemple, si je prends un exemple très très simple, lorsque les personnes âgées ont des boissons trop liquides, elles vont avoir tendance à faire des fausses routes, eh bien, je peux essayer de produire un lait qui va être beaucoup plus visqueux en agrégeant les protéines à l'intérieur de ce lait. Et donc, cette viscosité permettra à la personne de se nourrir avec des protéines et d'avoir des concentrations importantes de protéines pour lui apporter beaucoup d'énergie. Et néanmoins, d'avoir quelque chose de pas trop trop liquide, mais de beaucoup plus visqueux pour éviter, par exemple, de faire des fausses routes au moment où cette personne a ingéré ce lait particulier.
Eh bien, merci beaucoup, Christophe Chassonnieux.
Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Chercheur à l'Institut des molécules et matériaux de l'Université du Mans et physico-chimiste spécialiste de la matière molle. Pour réécouter les interviews de 5 minutes pour comprendre, vous allez sur radioalpa.com.